Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission L'œil du chat. Le chat a conquis le monde depuis des millénaires. Un sage chinois a trouvé le secret de son origine. Et qu'a-t-il dit ? Dieu a créé le chat pour que l'homme puisse caresser le tigre. Je vais moi me contenter de vous faire écouter ce que les poètes en ont dit. Un poème d'Henri Monnier tiré des chansons du chat noir. Vous rappelez Henri Monnier, poète mais aussi caricaturiste, c'est lui qui a inventé Monsieur Prudhomme, le type du bourgeois prétentieux. Je suis le chat de cimetière, de terrain vague et de gouttière, de haute Égypte et du ruisseau, je suis venu de saut en saut. Je suis le chat qui se prélasse à l'instant où le soleil passe, dans vos jardins et dans vos cours sans avoir pattes de velours. Je suis le chat de l'infortune, le trublion du clair de lune qui vous réveille dans la nuit au beau milieu de vos ennuis. Je suis le chat des maléfices condamnés par le Saint-Office. J'évoque la superstition qui cause vos malédictions. Je suis le chat qui déambule dans vos couloirs de vestibules et qui fait ses petits besoins sous la porte cochère du coin. Je suis félin bas de gamme, la bonne action des vieilles dames qui me prodiguent le ronron sans souci du qu'en dira-t-on. Épargnez-moi par vos prières le châtiment de la fourrière où finissent vos émigrés sans demeure et sans pédigré. Une fable qui s'appelle « Le chat et le moineau », c'est une fable de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Il a écrit pas mal de fables, on pourrait dire qu'elle ressemble beaucoup à celle de La Fontaine, mais il est de la même époque. C'est un fabuliste, c'est un poète, c'est un romancier. Il a été le protégé de Voltaire et il a traduit Cervantes. Le chat et le moineau. La prudence est bonne en soi, mais la poussée trop loin est une duperie. L'exemple suivant fait foi. Des moineaux habitaient dans une métairie. Un beau champ de millet voisin de la maison leur donnait du grain à foison. Ces moineaux, dans le champ, passaient toute leur vie occupés de gruger les épis de millet. Le vieux chat du logis les guettait d'ordinaire, tournait et retournait, mais il avait beau faire, sitôt qu'il paraissait, la bande s'envolait. Comment les attraper ? Notre vieux chat y songe, médite, fouille en son cerveau et trouve un tour tout neuf. Il va tremper dans l'eau sa patte dont il fait éponge. Dans du millet en grain, aussitôt il la plonge. Le grain s'attache tout autour. Alors, à cloche-pied, sans bruit, par un détour, il va gagner le champ, s'y couche, la patte en l'air et sur le dos, ne bougeant non plus qu'une souche. Sa patte ressemblait à l'épi le plus gros. L'oiseau s'y méprenait, il approchait sans crainte, venait pour becqueter. De l'autre patte, crac, voilà mon oiseau dans le sac. Il en prit 20 par cette feinte. Un moineau s'aperçoit du piège scélérat et prudemment fuit la machine, mais dès ce jour, il s'imagine que chaque épi de grain était patte de chat. Au fond de son trou solitaire, il se retire et plus n'en sort, supporte la faim, la misère, et meurt pour éviter la mort. Un poème de Jules Laforgue, à la mémoire d'une chatte naine que j'avais. Il a écrit cela en 1877. Bon, c'est un poète, bien sûr, il est né en Uruguay, à Montevideo, et il a même été le lecteur de l'impératrice d'Allemagne. Ô mon beau chat frileux, quand l'automne morose faisait glapir plus fort les mômes dans les cours, combien passâmes-nous de ces spléniques jours à rêver face à face en ma chambre bien close. Lissant ton poil soyeux de ta langue âpre et rose, trop grave pour les jeux d'autrefois et les tours, lentement tu venais de ton pas de velours devant moi t'allonger en quelque noble pose. Et je songeais, perdu dans tes prunelles d'or, Il ne soupçonne rien, non, du globe stupide qui l'emporte avec moi tout au travers du vide. Rien des astres lointains, des dieux ni de la mort. Pourtant, quels yeux profonds! Il m'intimide. Saurait-il donc le mot? Non, c'est le sphinx encore. Maurice Carême, dont je vous ai déjà lu plusieurs poèmes. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que le château noir croit rêver. C'est à peine s'il ose marcher. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que les choses semblent avoir changé. Et le château noir n'ose s'aventurer dans le verger, se sentant soudain étranger à cette blancheur où se posent, comme pour le narguer, des moineaux effrontés. Joachim du Bellay, épitaphe d'un chat qu'il a écrit en 1558. Petit museau, petites dents, yeux qui n'étaient point trop ardents, mais desquels la prunelle perse imitait la couleur diverse qu'on voit en cet arc pluvieux qui se courbe au travers des cieux. La tête à la taille pareille, le col grasset, courte l'oreille, et dessous un nez ébénin, un petit mufle léonin, autour duquel était plantée une barbelette argentée, armant d'un petit poil follet son musequin d'amoiselet. La gorge douillette et mignonne, la queue longue et guenonne, mouchetée diversement d'un naturel bigarrement. Tel fut Belot, la jante bête, qui des pieds jusques à la tête, de telle beauté fut pourvue, que son pareil on n'a point vu.
Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il l'a même posté au Canada et lui a dit « Tu resteras là ». Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Thompson paye un petit gars pour assassiner le chat. L'enfant part à la pêche, l'animal dans ses bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Le voisin de Thompson commence à s'énerver. Il prend sa carabine et la bourre de TNT. Le fusil éclate. La ville est affolée car une pluie de petits morceaux d'hommes commence à tomber. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Le fermier découragé envoie son chaton chez le boucher pour qu'il en fasse du hachis parmentier, de la chair à pâté du fast-food hamburger. Le matou hurle et disparaît dans la machine. De la viande poilue est affichée sur la vitrine. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Cette fois-ci, on expédie le chat au Cap Kennedy. C'est dans une fusée à 3 étages qu'il est parti. Le fermier saute de joie car il n'a plus de soucis. Et puis le lendemain matin, on l'appelle de Miami.
Hello, Farmer Thompson. We got your cat here. Yes, we don't know how he got back down, but he's definitely here. Would you mind coming and picking him up, please?
And the cat came back the very next day. The cat came back. He wouldn't stay away. Et le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant.
écrit Taine, tiré de « À trois chats, 12 sonnets ». Taine qui était historien et dont on n'imaginait pas qu'il pût écrire des poèmes. Prends ton ciseau, sculpteur, polis ton diamant, lapideur, émailleur, fond ta patte. Les belles que j'aime les voici, je les veux immortelles, éternisez pour moi leur grâce d'un moment. Sauvez-les de la mort par votre enchantement. Lune est noire, ses cils couvent des étincelles. Le jaspe, étoile d'or, me rendra ses prunelles, et le basalte noir, son corps souple et charmant. L'autre est de jais, d'albâtre et d'ambre chamarré. Pour sa robe, taillez la roche bigarrée, l'émeraude fera la splendeur de ses yeux. Et j'aurai, pour peupler mon intime oratoire, parmi mes dieux privés, deux lards glorieux, la Vénus tricolore et l'Aphrodite noire. Edmond Rostand, il a appelé ça « Le petit chat », écrit en 1911. C'est un petit chat noir, effronté comme un page. Je le laisse jouer sur ma table, souvent. Quelquefois, il s'assied sans faire de tapage, on dirait un joli presse-papier vivant. Rien de lui, pas un poil de sa toison ne bouge. Longtemps, il reste là, noir, sur un feuillet blanc, à ses matous tirant leur langue de drap rouge qu'on fait pour essuyer les plumes ressemblant. Mais le voilà qui sort de cette nonchalance, et faisant le gros dos, il a l'air d'un manchon. Alors, pour l'intriguer un peu, je lui balance, au bout d'une ficelle invisible, un bouchon. Il fuit en galopant et la mine effrayée, puis revient au bouchon, le regarde, et d'abord tient suspendu en l'air sa patte repliée, puis l'abat, et saisit le bouchon et le mord. Je tire la ficelle alors sans qu'il la voie, et le bouchon s'éloigne, et le chat noir le suit, faisant des ronds avec sa patte qu'il envoie, puis saute de côté, puis revient, puis s'enfuit. Mais dès que je lui dis « Il faut que je travaille, venez vous asseoir là sans faire le méchant », il s'assied, et j'entends pendant que j'écrivaille le petit bruit mouillé qu'il fait en se léchant. Sonnet à Ménine. Ménine aux yeux dorés, aux poils doux, gris et fins, la charmante Ménine, unique en son espèce. Ménine, les amours d'une illustre duchesse et dont plus d'un mortel enviait le destin. Ménine qui jamais ne connut de Ménin et qui fut de son temps des chattes de Lucrèce, chatte pour tout le monde et pour les chats tigresses. Au milieu de ses jours, on a trouvé la fin. Que lui sert maintenant que, dédaigneuse et fière, jamais d'aucun matou sur aucune gouttière, elle n'ait écouté les amoureux regrets? La parque étant ses droits sur tout ce qui respire, et de ne rien aimer tout le fruit qu'on retire, c'est une triste vie, et puis la mort après.
Le médium était concentré, l'assistance était convulsée, la table soudain a remué. A frappé.
Qu'est-ce que c'est?
Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos ébats. Que le chat gâcha